principe actif. On est heureux de se retrouver ce mois-ci, comme tous les mois, le dernier mardi du mois pour l'émission mensuelle d'Amnesty International. Donc ce soir, nous avons, comme d'habitude, un planning très chargé, un menu très chargé. Le menu, c'est bien, comme on c'est l'heure de dîner bientôt, donc voilà, ça va nous mettre en appétit. Et ce soir, participe à l'émission. Alors, je ne vais pas oublier de faire les présentations ce soir. Sabine ? Attends, parce que j'ai oublié de mettre ton micro, justement. C'est le micro 2, je crois. Voilà, je pense que vas-y. Voilà, ça marche. Ah, là, oui. Et Mina avec le micro 3, voilà.
Bonsoir.
Ça marche aussi, c'est magnifique. Alors, petite explication technique. Ce soir, Ronan, qui est notre technicien habituel, n'a pas pu venir. Et donc, c'est moi, Didier, qui le remplace à la technique, mais je suis beaucoup moins expérimenté. Vous excuserez les éventuels petits bugs qu'il peut y avoir, mais on fera de notre mieux. Voilà. Donc, ce soir, plusieurs sujets à aborder avec vous.
Il y a la musique derrière.
Ah, il y a la musique derrière, c'est exact, oui. Voilà, on baisse la musique. Voilà. Merci, Sabine. Non, mais je suis obligé de répéter. Hein. Voilà. Ce soir, pas mal de points à aborder avec vous. D'une part, au niveau de l'actualité d'Amnesty, deux gros événements sur le mois de décembre. Le marathon des signatures qui va commencer le 3 décembre, qui était un gros événement pour Amnesty. Je vais vous expliquer effectivement juste après en quoi ça consiste. Et la sortie du film, vous en avez déjà sans doute entendu parler dans les médias et au cinéma et autres, la sortie du film demain, du film The Lady, tourné par Luc Besson et consacré à la vie et à l'action et tous les drames qu'a pu vivre Aung San Suu Kyi. Le film a été présenté en avant-première hier soir au cinéma d'Evreux, au Ciné-Zénith Pathé. Nous y étions, nous avons tenu un stand, donc on va pouvoir effectivement vous en parler. On a vu le film, bien sûr, le film étant soutenu par Amnesty International France. Donc il sort le 30 demain. On ne peut que vous recommander déjà et chaudement d'aller tous le voir. Donc le premier point, le marathon des signatures. Le marathon des signatures, c'est un événement qui a commencé il y a 10 ans au sein d'Amnesty International, qui est une initiative de la section polonaise d'Amnesty, qui à l'époque était une toute jeune section, et qui a une idée toute simple, mais qui s'avère extrêmement fructueuse, qui est de mobiliser le public le plus large possible aux alentours de la date anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc c'est-à-dire le 10 novembre, puisque la Déclaration universelle des droits de l'homme a été votée le 10 décembre. Donc autour du 10 décembre, de mobiliser le plus large public possible autour de différents cas d'appel lancés par Amnesty. Donc l'idée est très simple, ça a démarré tout doucement et au fil du temps, effectivement, l'impact sur le public est allé croissant. Également l'impact sur les résultats obtenus en termes de libération de prisonniers ou en termes d'amélioration des conditions de détention, etc. Des points positifs. Donc on en est maintenant cette année à la 10e édition de ce marathon des signatures. C'est d'autant plus important aussi que cette année, comme vous le savez forcément, on vous en a déjà parlé, on fête aussi les 50 ans d'Amnesty, donc ce sont différentes dates qui se recoupent et qui font que le marathon des signatures 2011 est très important. Alors, le principe est toujours le même, c'est la façon de faire qui diffère un peu. On appelle le public le plus large possible à venir nous soutenir et pour ça, le plus simple, c'est d'abord d'aller signer. Il y a 12 cas d'appel qui sont présentés, on va vous en parler juste après. 12 cas d'appel qui sont présentés de gens dont les droits fondamentaux sont bafoués et qui sont bien sûr défendus par Amnesty, et on vous appelle à les signer pour eux sur le site qui va s'ouvrir donc le 5 décembre et qui s'appelle marathondessignatures.com, si je ne m'abuse. Attendez, je vais reprendre l'appellation exacte parce que je ne l'ai plus en tête. À force de lire les papiers, on finit par plus savoir. Donc le site ouvre le 5 décembre, c'est un site créé par Amnesty, mais qui est... Le 3 décembre, pardon, je me trompe dans les dates. Le 3 décembre, le site sera ouvert à minuit le 3 décembre. Il s'appelle donc www.marathondessignatures, tout attaché et au pluriel.com. Si vous y allez déjà, le site est déjà créé, mais vous aurez simplement la page de présentation. Les signatures ne seront disponibles qu'à partir du 3 décembre minuit. Vous y trouverez les 12 fiches dont on va vous parler, les 12 cas d'appel, et on vous invite effectivement à venir signer en ligne par rapport à tous ces gens dont les droits sont bafoués. Autour de ça, Amnesty met l'accent cette année pour différentes activités. On va essayer sur Evo, on en a discuté un petit peu hier soir, on s'est vu au cinéma, nous, au niveau du groupe. On va essayer, mais c'est malheureusement pas sûr, parce qu'on a été très pris par la foire exposition ces derniers temps et d'autres manifestations, de peut-être tenir un stand de la semaine prochaine dans Évreux pour appeler les gens à signer. Mais ça reste encore au conditionnel. De toute façon, vous serez peut-être amené à nous rencontrer en ville le samedi de la semaine prochaine, si tout se passe comme on le souhaite, mais c'est pas encore certain. Sinon, on vous appelle à venir effectivement signer en ligne. On va demander à la presse de passer un communiqué sur cette initiative d'Amnesty. Et donc le communiqué leur sera envoyé cette semaine pour parution, on espère, la semaine prochaine. Et il y a pas mal d'initiatives au niveau des groupes locaux. Vous pouvez aller sur le site d'Amnesty France, vous avez toute une carte de France avec les différentes initiatives prises par les différents groupes. Il y a un tas de choses qui sont lancées par les groupes, signatures publiques, petites mises en scène, petites pièces de théâtre, entre guillemets, présentations, etc., etc. Et il y a également, alors pour ceux qui auront l'occasion d'aller à Paris le samedi 10, donc le samedi de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'anniversaire, un bus Amnesty qui va sillonner la capitale et qui va faire 12 arrêts dans différents points de la capitale. Je ne les connais pas, mais Amnesty les connaissait à Paris forcément, qui fera 12 arrêts avec 12 appels à signature et 12 présentations des cas avec des acteurs qui vont jouer des scénettes sur place. Donc ça, c'est l'initiative d'Amnesty à Paris. Mais il y a plein de manifestations comme ça qui seront reprises à droite et à gauche à travers la France. N'hésitez pas d'aller sur le site si vous êtes amené à vous déplacer dans les jours qui viennent. Vous serez tout à fait chaudement invité à venir nous aider, à venir signer pour nous. Donc je rappelle que c'est fondamental d'aller signer sur le site dont je rappelle, donc il sera ouvert le 3, dont je rappelle l'adresse. www.marathondessignaturesattachéesetaupluriel.com. Encore une fois, alors quelques chiffres sur ce marathon des signatures pour vous donner une idée. Donc, il a été créé il y a 10 ans. En 2007, il a rassemblé 160 000 signatures et 650 000 en 2010. À l'heure actuelle, il est repris par environ 50 sections d'Amnesty à travers le monde. En France, 12 000 signatures obtenues en 2007 et plus de 120 000 en 2010. Bon, il faut signaler aussi que l'an dernier, par rapport aux 12 cas présentés par Amnesty France dans le cadre de ce marathon des signatures, au moins, on a eu la confirmation, au moins 2 personnes ont été libérées de façon très rapide après l'arrêt du marathon des signatures, comme quoi effectivement l'action continue à être positive. Bon, voilà ce qu'on peut dire, on pourra encore en dire beaucoup plus, mais bon, voilà sur quoi on peut se résumer tout de suite.
Et on peut signer jusqu'à quand, Didier ? Alors, le 3.
Oui, alors ça commence le 3 et ça finit, je ne vais pas vous dire de bêtises encore
Parce
une fois.
Parce que c'est en décembre, je crois, ça va très vite.
Hein. Non, ça va très vite, oui,
effectivement. C'est pas le 10, mais je ne suis pas sûre.
Alors, non, c'est pas le 10, c'est le... J'ai 7, vu la date 20, tout à l'heure et je ne l'ai plus sous les yeux, forcément. Si, ça y est, ça, voilà, la date est ici. C'est du 3 au 17. Allez. Donc le dernier jour pour signer, c'est le 17, le premier, c'est le 3. Effectivement, le délai est très bref, c'est pour ça que ça s'appelle un marathon. C'est une course de vitesse pour ramasser le maximum d'impact au niveau du public et une course de vitesse aussi pour faire pression par rapport aux autorités qui oppriment. Et encore une fois, Dieu sait qu'il y en a. Donc, il y a 12 cas présentés cette année. Je vais vous faire une très très courte présentation de ces cas. Et pour deux d'entre eux, on a choisi avec Sabine et Mina de vous parler concrètement d'engagement. Alors, ce qu'il faut vous expliquer, c'est que par rapport à ces 12 cas présentés par Amnesty France, un certain nombre d'artistes, d'écrivains, d'Anne Frank, François Morel, Agnès Bille et bien d'autres, ont accepté de rédiger des lettres par rapport à un de ces 12 cas. Et donc, c'est deux de ces lettres qu'on va vous lire, effectivement. Elles nous sont parvenues hier par Amnesty Paris. Deux de ces lettres qu'on va vous lire. Bon, c'est un engagement symbolique, mais aussi important dans la mesure où c'est des gens connus qui s'engagent à nos côtés. Et qu'on va vous lire dans la présentation de ces cas. Alors le premier cas, c'est un cas de femmes qui ont été violées au Mexique et qui ont porté plainte à la suite de ce viol et qui, à l'heure actuelle, non seulement il n'y a pas eu d'enquête diligentée pour essayer de retrouver qui étaient les violeurs en question, mais dont la vie elle-même et la sécurité elle-même est menacée par différents groupes terroristes ou paramilitaires qui veulent en fait les faire taire par rapport aux exactions qu'elles ont subies. Donc c'est le premier cas défendu par Amnesty. Donc ces femmes, c'est Inès. Alors je suis désolé Sabine pour l'accent.
Inès.
T'as pas le nom Sabine parce que comme t'es espagnolante, moi pas du tout. Donc tu pourras aller lire leur nom mieux que moi.
Inès Fernández Ortega et Valentina Rosendo Cantu.
Voilà, c'est beaucoup mieux dit. Donc violées par des soldats en 2002, ces deux femmes autochtones, mais pas de l'État de Guerrero, ont eu le courage de dénoncer ces agressions auprès des autorités. confiée à la juridiction militaire, aucune enquête sérieuse n'a encore été menée 9 ans après les faits. En août 2011, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a ordonné à l'État mexicain d'enquêter. Leur combat se poursuit. Donc, Sabine, si tu peux lire la lettre d'Agnès Bill, donc, qui est une femme de théâtre, une écrivain qui a écrit pour elle.
On va vous la chanter.
On va vous la chanter, oui.
Mais par contre, Valentina Rosado a dit...
Elle a dit « Le gouvernement ne m'a jamais cru et m'a toujours traitée de menteuse. »
Et Inès, je veux dire aux autres femmes de se battre au sujet de ce qui leur est arrivé. Vous n'êtes pas seules.
À la claire fontaine, ils se sont approchés. Ils étaient une dizaine, ils ont bien rigolé. Il y a longtemps que je saigne, jamais je ne l'oublierai. Ils étaient une dizaine et j'avais 17 ans. 17 ans, quelle aubaine, ils ont pris tout leur temps. Il y a longtemps que je saigne, jamais je ne l'oublierai. 17 ans, pas vilaine, et face à des soldats qui voulaient que j'apprenne ce que c'est qu'un vrai gars. Il y a longtemps que je saigne, jamais je ne l'oublierai. Ils voulaient que j'apprenne qu'ils avaient tous les droits. Je n'avais que ma haine, je n'avais pas le choix. Il y a longtemps que je saigne, jamais je ne l'oublierai. Chante, rossignol, chante, toi qui as les yeux crevés. Les miens sont dans l'attente d'un peu de vérité. Il y a longtemps que je saigne, jamais je ne l'oublierai. Pourquoi suis-je vivante s'ils ne sont pas jugés? C'est toujours l'innocente, la seule condamnée. Il y a longtemps que je saigne, jamais je ne l'oublierai.
Je crois qu'on peut les applaudir bien fort. Donc je vais les applaudir tout seul, effectivement. Parce que c'était quand même un exploit. Donc effectivement, on sera le seul groupe à avoir chanté.
Désolé pour vos oreilles.
Surtout que Sabine ne m'avait pas prévenu qu'il y avait 2 pages.
Moi non plus.
On sera le seul groupe à avoir chanté une lettre de soutien d'Agnès Bill pour Amnesty International. Bon, deuxième cas présenté dans le marathon des signatures en Inde. Kartam Joga, militant politique autochtone et défenseur des droits humains. Kartam Joga s'est élevé contre les abus commis à l'encontre des populations autochtones après avoir subi une attaque en 2005 par les milices Jalva Judun. Arrêté le 14 septembre 2010, il encourt une peine allant de 10 ans de prison à la peine de mort. Troisième cas, Fédération de Russie, Natalia Estemirova. Éminente défenseur des droits humains en Tchétchénie, Natalia Estemirova enquêtait sur les violations des droits humains. Elle était également engagée dans la lutte contre la corruption et les restrictions grandissantes aux droits des femmes. Travaillant notamment avec la journaliste Anna Politkovskaya, elle a été assassinée en juillet 2009. Aucune enquête sérieuse n'a été ouverte pour retrouver ses assassins. Iran, Mohamed Sadiq Kaboudvand. Arrêté le 1er juillet 2007, ce journaliste qui publiait des articles en faveur des droits économiques, sociaux et politiques de la minorité kurde iranienne a été condamné en mai 2008 à 10 ans de prison. Victime de mauvais traitements répétés, il souffre aujourd'hui de graves problèmes de santé chroniques. République du Congo, Voilà, je vous ferai grâce des noms parce que ce sont des noms en congolais. Et vraiment, c'est des noms qui sont très, très difficiles à prononcer. Ces trois anciens hauts gradés des services de sécurité congolais ont demandé l'asile politique en République du Congo. Ils ont été arrêtés en mars 2004 suite à leur participation à une interview radio. Ils sont aujourd'hui toujours détenus sans charge ni procès. Nigeria, les habitants d'héberges de Port Harcourt. Dans le cadre du programme de rénovation urbaine de la ville, des milliers de personnes se sont retrouvées sans toit ni solution de relogement. Des dizaines de milliers d'autres risquent le même sort. Les expulsions doivent cesser et les communautés doivent être consultées. Sénégal, Cathy Bassène. Dans une situation financière particulièrement difficile suite à l'enlèvement et à la disparition de son mari par les soldats en 1999, cette femme sénégalaise se bat pour connaître la vérité et obtenir réparation. Kazakhstan, Oleg Evloev et Dmitri Trian. Après avoir arraché leurs aveux sous la torture, les autorités kazakhes ont condamné Oleg Evloev à 25 ans et Dmitri Trian à la prison à vie pour le meurtre prémédité d'une femme et de ses trois enfants. Les deux hommes continuent de plaider leur innocence et demandent l'ouverture d'une enquête pour les tortures qu'ils ont subies. Corée du Nord, les prisonniers du camp Yodok. Emprisonnés sans aucune forme de justice, les 50 000 prisonniers du camp Yodok sont torturés, maltraités et soumis au travail forcé dans des conditions extrêmes. Malgré les témoignages d'anciens prisonniers et des photos satellites comme preuve, le gouvernement nord-coréen nie l'existence de ce camp, mais également de tous les autres camps de prisonniers politiques. États-Unis d'Amérique, Christy Tcharami. À l'âge de 16 ans, Christy Tcharami a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Cette condamnation va à l'encontre de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant que les États-Unis ont signée, mais toujours pas ratifiée. Indonésie, Philippe Karma, reconnu coupable de rébellion le 26 mai 2005 après avoir brandi un drapeau d'indépendance de la Papouasie au cours d'une cérémonie annuelle. Philippe Karma purge une peine de prison de 15 ans pour avoir exercé son droit à la libération d'expression. Il est victime de mauvais traitements répétés. Et enfin, le dernier cas, qui n'est pas le dernier cas sur la liste, mais j'ai fait exprès d'en parler en dernier parce que je vais vous lire le petit texte de François Morel qui va avec, qui est le cas de, je reprends la bonne page, voilà, qui est le cas de Halil Safda, turc. À travers l'écriture d'articles de prise de position publique, Halil Safda plaide la cause de tous ceux qui, comme lui, se sont opposés au service militaire. Il est objecteur de conscience. Son engagement lui a valu d'être arrêté et condamné à de multiples reprises. Il est actuellement sous le coup d'une condamnation de 5 mois d'emprisonnement. Donc François Morel a fait un petit texte en soutien à ce prisonnier turc.
Et... la deuxième ou la troisième
Sabine
page.
Sabine m'a fait un j'ai gag et elle m'a caché le texte de François Morel. Dans le voilà, j'ai retrouvé. Alors, donc François Morel a écrit pour Amnesty et pour, bien sûr, ce prisonnier turc. « Je ne suis jamais allé en prison, sauf en tant que comédien et en tant que lecteur. Pour lire donc, jouer la comédie et apporter un peu de distraction, peut-être de consolation à des personnes privées de liberté. Si j'étais né à une autre période, dans un autre pays, on aurait pu m'enfermer. J'aurais pu être jugé comme un dangereux terroriste. À la fin des années 70, au début des années 80, nous étions nombreux à écouter Maxime Le Forestier, qui notamment chantait Parachutiste. Nous étions nombreux à nous souvenir de Boris Vian, éternel jeune homme, auteur du Déserteur. Il avait écrit 2 versions finales de son tube antimilitariste. Prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Je suis désolé, Sabine, mais là je ne chante pas. Ou bien, prévenez vos gendarmes que je tiendrai une arme et que je sais tirer. Selon la sensibilité, la conviction, la colère de chacun, on préférait l'une ou l'autre version. Certains pacifistes de cette époque étaient très bellicistes. On trouvait même des non-violents assez violents. Moi, je faisais partie de cette frange inoffensive qui ne refusait pas de participer à des manifestations du côté de la Hague, de porter des cheveux longs, d'apposer à l'arrière de 4 ailes poussives ou de 2 chevaux brinque-ballantes des autocollants anti-nucléaires, de porter des chemises à fleurs. Nous bichions quand nous attendions l'oncle Georges dire adorer les Pandores sous la forme de Maccabée. Mon copain Gérard avait vu son statut d'objecteur de conscience refusé. Pendant plusieurs mois, il a vécu dans la clandestinité. Il habitait chez les uns et chez les autres. Nous étions un peu des résistants accueillant Jean Moulin pour chasser par les nazis. Oui, j'exagère, d'autant que Mitterrand est arrivé en 81. Les poursuites contre mon copain Gérard se sont arrêtées. Comme j'ai été jugé apte à faire mon service militaire, j'ai écrit une lettre à M. Chevènement. J'ai obtenu mon statut d'objecteur de conscience. La perspective de passer 2 années dans les eaux et forêts du côté de la forêt de Chevreuse m'a conduit à boire énormément de bière et de café le jour de la visite médicale et de me retrouver réformé du service civil. Apte à effectuer mon service militaire et réformé du service civil, suis-je le meilleur avocat pour défendre Halil Safda ? Le mieux pour moi est sans doute de recopier les informations que me donne Amnesty International. Halil Safda est un défenseur des droits humains persécuté de manière répétée pour son refus d'accomplir le service militaire. Objecteur de conscience, il plaide la cause de tous ceux qui, comme lui, font face au risque continu d'emprisonner pour s'être opposé au service militaire. Par l'écriture d'articles, par des prises de position publiques, lors de manifestations, il témoigne sans cesse son engagement sans relâche, arrêté et condamné à de multiples reprises. Il a déjà passé 17 mois en prison depuis 2004. Il est actuellement sous le coup d'une condamnation à 5 mois d'emprisonnement pour avoir aliéné le public du service militaire et être emprisonné à tout moment, ce qui ferait de lui un prisonnier d'opinion. Il existe encore des endroits dans le monde, alors c'est François Morel qui reprend la parole, il existe encore des endroits dans le monde où l'idée qui consiste à récuser toute forme de violence, à se sentir incapable de porter un fusil, à refuser de tuer son prochain, son lointain, est passible de prison. Depuis l'arrêt historique rendu le 7 juillet 2011 dans l'affaire Betyatan, en Arménie, la Cour européenne des droits de l'homme confirme le droit à l'objection de conscience au service militaire. Comment dire à la Turquie que si elle veut avoir la chance de faire partie de l'Europe, non, c'est peut-être plus trop le bon argument. Comment dire à ce grand pays que le refus des armes n'est jamais condamnable, que le fait d'avoir une opinion ne peut être un délit, que rêver à un monde sans armes, sans violence, ne peut pas être un crime? Comment dire le plus pacifiquement, le plus fermement possible qu'un monde sans espoir, sans rêve, sans utopie est un monde qui agonise? Voilà, c'était le texte de François Morel. Donc on va s'arrêter là pour le marathon des signatures parce qu'on a déjà fait beaucoup plus long que ce qu'on pensait. Mais je crois que ça valait le coup. Je vous rappelle simplement donc deux choses. Les dates du 3 au 17 décembre. Le site www.marathondessignatures.com. Et maintenant, un peu de musique. Si j'arrive à mettre la pareille en route.
Non.
Hiroshima, mon amour. Paris, la haine. New York, les deux tours. Moscou, sans peine. Tokyo, l'atmosphère. Rio, dans ses bras. Sydney, en première. Braque sans toi. Rien ne change. Les usines fument.
Retour sur à l'antenne, je vérifiais qu'on était bien effectivement. Alors,
ah, hop. Toujours censuré là. Moi.
Non, ça va marcher là, ça va marcher. Ah,
donc
vas-y, parle, ça marche.
Oui, là. Quoi, je m'entends.
Pas de retour. Hein.
Oui.
Bon, excusez-moi, voilà. Là, j'avais oublié d'arrêter le disque au passage.
Ça va mieux.
Donc c'était.
Sabine, on t'entend, oui.
C'était alors. Hiroshima de Radio Sofa, comme voilà. Renan m'a appris qu'il fallait dire les titres
oui,
après.
Oui, il fallait désannoncer, comme on dit en termes
musicaux.
Alors
j'ai bien appris ma leçon.
Bien, deuxième partie de notre émission, le film The Lady, qui sort donc demain au cinéma. Film soutenu par Amnesty International France, réalisé par Luc Besson sur la vie et l'action d'Aung San Suu Kyi. C'est surtout en fait sur sa vie. Nous, on a pu voir le film en avant-première hier. Moi, je l'avais vu la semaine d'avant à Rouen, en avant-première, avec la participation de Luc Besson. Donc, c'était d'autant plus intéressant. Je l'ai revu hier. J'étais encore plus ému, je crois, la deuxième fois que la première. C'est un film qui est extrêmement émouvant sur un tas de plans. La vie d'Aung San Suu Kyi, je pense que je ne vais pas en dire beaucoup parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et qu'on en a déjà parlé dans une émission il y a quelques mois. Donc, référez-vous à vos notes personnelles que vous ne manquez pas de prendre quand vous nous écoutez. Et puis, Aung San Suu Kyi, donc, fille du héros de la libération de la Birmanie, le général Aung San, qui a été assassiné, l'indépendance ayant été acquise en 1947, qui a été assassiné juste après par des opposants politiques. Et sa fille, en fait, est arrivée en politique presque par hasard suite à la maladie de sa mère, qui était restée en Birmanie parce qu'elle-même a longtemps vécu en Angleterre et elle avait épousé un Anglais. Qui est revenue chez elle et qui est devenue en fait la figure de proue et la leader, entre guillemets, de la démocratie et de la lutte pour la liberté en Birmanie. Donc le film raconte sa vie, son engagement et comment quelqu'un comme elle peut arriver à se dépasser complètement pour une cause qui est plus importante que sa propre vie. Voilà, donc Mina a vu le film, Sabine non, parce qu'elle n'a pas pu être avec nous hier, mais Mina a vu le film, donc oui. On va en discuter un peu. Voilà, Mina, vas-y.
J'ai vu le film.
Mina n'a pas aimé le film.
Si, j'ai aimé, je me suis retenue pour pleurer parce que j'avais envie vraiment de tout suivre au niveau, pas de l'intrigue, mais des événements. Parce que c'est vrai qu'en Birmanie, si j'en parle trop, attendez, je vais essayer de tourner une phrase pour ne pas vous raconter le film, pour que vous alliez le voir quand même demain. En fait, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans l'histoire politique du pays. Et autour de la NLD, donc justement du parti de Aung San Suu Kyi. Et non, ça m'a beaucoup plu. Après, je sais que moi, j'ai entendu parler de commentaires de certains cinéphiles qui disaient qu'ils auraient voulu avoir plus de moments autour justement de comment se sont passées les élections ou d'autres choses. Donc voilà. À vous de, si vous y allez, de voir ce que vous pouvez en tirer. Mais c'est un très bel hommage, par contre. Un très bel hommage et très poignant. Après, ce n'est pas dit qu'on pleure du début jusqu'à la fin, parce qu'il y a 2 heures de film quand même. Donc, on ne fait pas que pleurer. Mais l'engagement, justement, d'une femme comme Aung San Suu Kyi et de militants comme Amnesty. Là, c'est quand même bien reflété de ce que peut être un engagement, parce que nous, au niveau local, c'est pas autant qu'Aung San Suu Kyi, mais c'est les convictions. Est-ce que je lâche, est-ce que je lâche pas? Toute l'intrigue, tout l'action est autour de ça, n'est-ce pas, Didier?
Tout à fait. Juste un petit commentaire sur ce que tu viens de dire. Bon, ça, je le tiens de la bouche de Luc Besson, puisque c'est ce qu'il a répondu à Rouen quand il était présent. Petite parenthèse, on espère toujours, ça n'a pas pu se faire pour des raisons malheureusement indépendantes de notre volonté, mais on espère toujours faire non plus une avant-première maintenant bien sûr avec lui, mais une soirée spéciale courant du mois de décembre le plus tôt possible, avec une date qu'on espère réussir à caler avec lui pour qu'il vienne faire une soirée spéciale au Ciné Zénith Pathé, en accord avec M. Balesdan, le directeur. On est toujours en contact, on y pense depuis le mois de juillet, ça a été assez compliqué à monter, ça ne s'est pas passé comme on voulait. Mais comme on est amnistien, on est très têtu et on continue à vouloir le faire et ça se fera.
On lâchera rien.
Vous serez informé par la presse et par, les affiches dans le cinéma. Ce sera une soirée spéciale avec Amnesty, on l'espère très vite maintenant. Donc, je peux vous dire, je vais remplacer Luc Besson, entre guillemets, bien modestement, parce que la question lui a été posée. Effectivement, son engagement, lui, était plus un engagement de cinéaste, c'est-à-dire que ce qui l'a intéressé dans un premier temps, ce n'est pas le côté trop politique de la vie d'Aung San Suu Kyi, c'était comment quelqu'un comme elle peut arriver à complètement se dépasser et à faire des choses qui sont absolument incroyables. Elle a sacrifié sa vie personnelle pour sa cause et comment effectivement quelqu'un peut se dépasser à ce niveau-là. Et le film est surtout centré là-dessus, donc on voit beaucoup effectivement comment elle était privée de sa famille puisque son mari est mort en Angleterre, elle n'a pas pu retourner le voir, sinon elle ne retournait pas dans son pays, etc. Donc c'est ce qui l'intéressait, mais plus que le côté militant, même si dans le film effectivement on comprend très bien ce que c'est qu'une répression politique, mais le film n'insiste pas là-dessus, c'était pas son sujet, mais il en dit suffisamment pour être tout à fait parlant. Voilà. Donc, on avait prévu par rapport au film de vous lire, Sabine va vous lire après un petit acte de rébellion qu'elle a trouvé dans le bouquin d'Amnesty. Mais juste avant, on a quand même un petit scoop radiophonique, enfin tout à fait modeste, puisqu'on parle d'Aung San Suu Kyi. Je vais vous faire écouter deux petites minutes d'une émission qui a été diffusée sur Radio France Internationale en mai dernier. C'est une interview d'Aung San Suu Kyi par téléphone qui est faite par Stéphane Hessel, co-rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, auteur du petit bouquin « Les indignez-vous », effectivement, que tous les indignés du monde connaissent bien. C'est un très jeune monsieur de 90 ans, quelqu'un d'extraordinaire, et qui a pu interviewer donc, pour Radio France Internationale Aung San Suu Kyi en mai dernier. Ça a été diffusé, j'ai pu enregistrer et j'ai récupéré deux petites minutes que je vais vous faire écouter maintenant en espérant que je ne vais pas me tromper dans les bouton. Bon, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'arrive pas du tout à lancer le disque. Je ne sais pas pourquoi. Alors.
Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer du coup à l'acte de
rébellion. Oui. Attends, Sabine, parce que j'ai pas mis ton micro, du coup. Attends, excuse-moi, je suis désolé, mais voilà. Vas-y, c'est bon.
Alors,
c'est
un petit acte de rébellion en Birman, donc message caché. On sait qu'en Birmanie, être vu en possession d'une image d'Aung San Suu Kyi est déjà un acte de résistance. Parmi toutes les libertés fondamentales auxquelles les hommes aspirent pour vivre une existence pleinement digne, la libération de la peur est unique. Elle est à la fois un moyen et une fin. Aung San Suu Kyi se libérait de la peur. En 1988, la Birmanie fut théâtre de manifestations pacifiques pour la démocratie. La brutalité inouïe avec laquelle la junte militaire au pouvoir les réprima, massacrant des centaines de personnes, fit la une des journaux dans le monde entier. Lorsqu'en 1990, le parti d'opposition mené par Aung San Suu Kyi remporta une écrasante victoire aux élections, il s'agissait des élections mises en place par les généraux suite aux événements populaires de 1988, NDT, les militaires refusèrent de reconnaître leur défaite. Ils empoisonnèrent, torturèrent et parfois même assassinèrent ceux qui osaient dénoncer la situation. Aung San Suu Kyi fut placée en résidence surveillée. Afficher sa photo dans les lieux publics ou même chez soi devint un motif suffisant d'arrestation. Sachant cela, on ne peut qu'être frappé à la vue d'un petit billet de banque commandé et imprimé à l'époque par le gouvernement birman. Malheureusement pour le régime, le créateur du nouveau billet, Dang Kyat, qui était la monnaie nationale birmane, était un partisan d'Aung San Suu Kyi. Il transforma sa mission en acte subversif. Il savait que le billet de banque devait comporter l'image du père d'Aung San Suu Kyi, le général Aung San. Le fondateur de l'armée birmane était salué pour le rôle capital qu'il avait joué dans la lutte pour l'indépendance de son pays face aux colonisateurs britanniques. Le créateur dessina l'image du général sur le filigrane du billet, mais il arrondit subtilement le tracé de la mâchoire anguleuse du soldat et adoucit également le dessin des yeux, du nez et des lèvres. De ces légers changements difficilement perceptibles émergea pourtant un acte de rébellion frappant. Le visage du père avait été subtilement transformé en celui de sa fille. Le dessin passa la censure. Il ne remarqua pas
que l'image de Philine Crane ressemblait plus à Aung San Suu Kyi qu'à son père. Le billet de banque fut donc imprimé et mis en circulation dans tout le pays. À travers toute la Birmanie, dans les salons de thé et les pagodes, on étudiait désormais le nouveau billet de banque en chuchotant qu'il comportait une image cachée de la dame, surnom donné à Aung San Suu Kyi par ses compatriotes. Le contenu subversif du billet ne se limitait pas au portrait. Le décor floral était constitué de 4 cercles de 8 pétales chacun. 8 sur 8 sur 8 sur 8, en écho à la date du soulèvement birman pour la démocratie, dont le point culminant fut le 8 août 1988. 8-8-88. D'après certaines sources, le billet de banque comporterait pas moins de 11 messages cachés. Mais quel que fût le nombre de ces messages, une chose était certaine. Le filigrane représentant Aung San Suu Kyi, dont le nom signifie « amas lumineux de petite victoire », était de loin le plus saisissant. Le billet laissa les Birmans incrédules et fiers. Les généraux, quant à eux, ne décolleraient pas et le billet rebelle d'Inkiat fut retiré de la circulation et sa possession devint illégale. Ceux qui parvinrent à en conserver un exemplaire le chérissent toujours. On l'appelle le billet de la démocratie. Voilà, petit acte de rébellion en birman, hein, dans le livre. Donc Didier va nous mettre maintenant le...
Merci Sabine. Alors, grâce à l'aide de Damien qui est venu en catastrophe nous aider, je pense que maintenant, effectivement, ça devrait marcher. Donc vous devriez entendre effectivement Aung San Suu Kyi interviewée par Stéphane Hessel.
Would you agree with me that the Universal Declaration of Human Rights, which was drafted in the years...
Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que la Déclaration universelle des droits de l'homme, rédigée entre les années 1945 et 1948, contient les éléments de base de ces valeurs dont nous parlons, que les libertés individuelles et les droits de l'homme sont véritablement applicables partout dans le monde et ne devraient pas être considérés comme une vision des choses proprement occidentale, différente d'une vision asiatique, et qu'il s'agit plutôt d'un point de départ universel pour une forme nouvelle de coopération entre les peuples? Pensez-vous que les Nations Unies ont apporté un réel soutien à votre combat en Birmanie?
Je pense que nous pourrions recevoir plus de soutien et d'assistance des Nations Unies. Mais le problème avec les Nations Unies, comme tout le monde le sait, c'est que cette organisation est la somme des États qui la constituent. Comme tous les États membres ne s'accordent pas sur ce qu'il faut faire, le résultat s'avère souvent peu efficace. Mais je pense que les Nations Unies ont un réel potentiel à condition que les États membres se montrent plus généreux et moins névrotiques quant à leur souveraineté nationale. La Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies, quand on y réfléchit, date de plus de 50 ans. Et oui, elle est toujours valide.
Aung San Suu Kyi et Stéphane Hessel, dialogue en exclusivité sur RFI. Aung San
Suu Kyi... Voilà, donc c'était les quelques minutes que j'avais envie de vous faire entendre. Et donc, après cette séquence sur le film de Lady et Aung San Suu Kyi, donc encore une fois, n'hésitez pas à aller voir ce film, au besoin le revoir. Encore une fois, moi j'ai été plus ému la deuxième fois que la première. Et c'est un film sur un engagement magnifique. Et sur une histoire, effectivement, une histoire humaine très, très belle. Très, très dure, mais très, très belle. Donc, on va faire, si j'arrive à me débrouiller avec les platines disques, parce que c'est vraiment ma bête noire ce soir, la deuxième pause musicale. Donc, voilà, si tout marche bien. Et on se retrouve juste après pour vous donner quelques infos d'Amnesty et quelques infos locales aussi. Et pour Mina aussi, pour faire ses petites critiques littéraires dont elle a le secret. Non ? Elle me regarde avec des yeux ronds, culturels, voilà, des critiques culturelles. Donc on se retrouve juste après la musique en espérant que la musique veuille bien marcher.
Beautiful tango, take me by the hand. Beautiful tango, until you make me dance. How how sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the, come to the world, come to the, come to the world, and baby, let me show you things. 'Cause time is running and we can lose. Baby, come and dance, we gonna make it through. 'Cause we've got time, yes, we've got time, beautiful stranger. Don't wanna know your name, beautiful stranger. Just wanna take your hand. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the place where the skin speaks the secret words in Spanish, where the night turns out the light of day for us to show some courage. So don't go if you wanna know. Don't go if you don't know. I love the way you move and the way you put your hands on my hips. I'm moving while you take it slow. Makes me feel like I'm on a river flow. 'Cause we've got time, and yes, we've got time. Beautiful stranger, I wanna lose my mind. Beautiful stranger, in the depth of your arms. Beautiful stranger.
De retour donc sur, le, sur l'émission de, d'Amnesty sur Principe Actif. Et tout de suite, donc le disque c'était Mina, parce que c'est toi qui as le secret de la musique ce soir.
Beautiful Tango,
voilà.
De Dindi Zara.
Voilà. Et donc bah, tout de suite, Mina va continuer aussi à vous parler de quelques bonnes nouvelles, parce que dans chaque émission, on vous parle forcément de bonnes nouvelles. L'Amnesty, c'est aussi toujours des bonnes nouvelles. Donc on a reçu hier, donc c'est une avant-première. Voilà, vas-y.
Alors, dans les bonnes nouvelles, il y a eu des libérations. En Arabie Saoudite, Rima bint Abdul Rahman Al-Jirish et Sharifa Al-Sakabi, deux femmes arrêtées lors d'une manifestation le 3 juillet 2011 à Riyad, ont été libérées peu après. Elles appartiennent toutes deux à l'Association saoudienne des droits civils et politiques. Toujours en Arabie Saoudite, le défenseur des droits humains Fadel Maki Al-Manassif, arrêté le 1er mai 2011 lors d'une manifestation dans la province de l'Est, a bénéficié d'une libération conditionnelle le 22 août 2011. Il se serait engagé par écrit à ne plus participer à des manifestations. Au Cameroun, l'écrivain camerounais Bertrand Zéphérine Théyou, incarcéré depuis novembre 2010 après avoir écrit un livre sur l'épouse du président du Cameroun, a été libéré le 29 avril 2011. Il a maintenant rejoint sa famille. En Chine, Ding Fanggan, défenseur des droits humains qui était détenu à Pékin, a été libéré. Amnesty International continue à suivre l'évolution de sa situation car Ding Fanggan son épouse et leurs enfants sont tous illégalement assignés à résidence. En Chine, toujours, Mao Enfeng, militante en faveur des droits humains, qui avait été condamnée à 18 mois de rééducation par le travail en mars 2010, a été libérée cet été en raison, semble-t-il, de son état de santé. Elle aurait été torturée dans le camp de rééducation et aurait été hospitalisée à l'hôpital pénitentiaire de Shanghai. Amnesty continue à suivre l'évolution de sa situation et interviendra de nouveau si nécessaire. Après, plein de bonnes nouvelles qu'on peut retrouver sur le site d'Amnesty.
Oui, il y a des informations données sur le site. Il y a des informations données aussi dans tous les mois dans la chronique, le mensuel d'Amnesty France. Donc, n'hésitez pas aussi à vous abonner. C'est aussi une forme de soutien et d'information tout à fait importante. Donc, voilà, n'hésitez pas. Effectivement, et on pourrait vous en parler, heureusement, pendant très longtemps, mais on est obligé de faire court. Et il y a pour terminer sur le chapitre Birman, voilà, et avec Aung San Suu Kyi, Sabine va vous lire une demande d'action aussi concernant la Birmanie.
Voilà, une demande de liberté pour tous les prisonniers d'opinion birman. Donc envoyé à Monsieur le Président, depuis plusieurs décennies, les militants politiques birmans sont soumis à des arrestations arbitraires, des interrogations sous la torture, des procès iniques et des conditions carcérales inhumaines. Nous nous félicitons de la remise en liberté de plus de 200 prisonniers politiques dans le cadre de l'amnistie du 12 octobre 2011. Cependant, il reste encore 1800 prisonniers politiques, dont la majorité sont des prisonniers d'opinion et qui seraient toujours derrière les barreaux. En 2010, à l'issue des premières élections depuis 20 ans, le nouveau gouvernement avait promis une réforme politique. La remise en liberté de tous les prisonniers d'opinion constitue un des éléments permettant d'évaluer la sincérité de cette promesse. Donc, il est demandé en tant que président de la Commission nationale des droits humains nouvellement établie au Myanmar de demander de toute urgence au président Thein Sein de libérer immédiatement et sans condition tous les prisonniers d'opinion encore incarcérés. Donc, allez sur le site d'Amnesty International, hein, personne en danger, et vous signez. Il y a pas mal de pétitions sur la Birmanie. Donc, n'hésitez pas à y aller et à signer, à soutenir et à demander la libération des... Alors, il y a aussi d'autres pétitions sur des moines birmans. Enfin bon, il y en a pas mal. Donc, allez sur le site et signez. Hein, il y a beaucoup de pétitions qui s'arrêtent en décembre. Alors, c'est assez urgent.
Voilà. Je rappelle l'adresse du site www.amnesty, avec un Y à la fin, bien sûr, .fr. C'est très simple. Mina, quelques notes de lecture, on avait dit.
Alors, juste si je peux me permettre, si vous allez sur le site et
ben
que vous allez
Mina,
aussi
oui, parce que,
à
en
l'action,
fait,
il y a
le 20
une...
novembre, voilà. C'était la journée mondiale des droits de l'enfant, donc.
Et deux mineurs ont été attaqués par des hommes armés en Argentine. Donc, allez aussi signer la pétition sur ces deux mineurs argentins, donc sur le site également. Hein. Et aussi, il y a une action urgente sur la République dominicaine. Sur les familles qui ont été expulsées et dont les enfants en bas âge sont menacés. 72 familles chassées aussi en République dominicaine. Donc, allez sur le site et signez. C'est des actions urgentes qui s'arrêtent en décembre aussi. Voilà.
Le 20 novembre, c'était la journée mondiale des droits de l'enfant. Et le 25 novembre, la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Et à cette occasion, Didier va nous lire un texte.
Oui, donc Amnesty qui est engagée depuis 2005, Amnesty France qui est engagée depuis 2005 sur la violence faite aux femmes et qui interpelle l'État, puisque c'est la responsabilité de l'État, à réactiver sa campagne vis-à-vis de l'État français à cette occasion. Il vient de publier un communiqué que je vais vous lire, qui est très court. En 2010, 146 femmes sont décédées, victimes de leurs compagnons ou ex-compagnons, selon l'étude nationale sur les morts violentes au sein du couple réalisée par la délégation aux victimes du ministère de l'Intérieur. Assassinats, meurtres, coups et blessures volontaires suivis de mort. En France, une femme meurt tous les deux jours et demi. Bien que les violences au sein du couple soient commises dans la sphère privée, ce sont des violations des droits humains et elles concernent donc l'État. Dans son rapport public de février 2010, Lutte contre les violences faites aux femmes, la France doit mieux faire, Amnesty International a pointé des dysfonctionnements de la lutte contre ces violences. En février 2011, Amnesty International a adressé le manifeste pour les droits humains, constat et perspectives 2011-2012 aux autorités françaises. Ce document souligne les avancées réalisées depuis 4 ans et met en avant les progrès qui restent à accomplir pour assurer une meilleure prise en compte des droits humains en France, notamment dans le domaine de la violence faite aux femmes. Le nouveau plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes 2011-2013 prévoit plusieurs mesures pour lutter contre les violences au sein du couple et plusieurs actions du plan recoupent certaines de nos recommandations. Pour renforcer et améliorer la lutte contre les violences faites aux femmes en France, Amnesty demande la mise en place d'une réelle coordination interministérielle entre les différents acteurs, le renforcement de la formation de tous les acteurs concernés par la lutte contre les violences faites aux femmes, la mise en place systématique d'un dispositif d'accueil et de prise en charge des victimes dans les commissariats, les unités de gendarmerie et les services médicaux, un déploiement des moyens financiers indispensables à la réalisation du plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes et à la mise en œuvre de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidents de ces dernières sur les enfants. Voilà les recommandations. Donc, plus que jamais, Amnesty France est investie sur ce dossier.
Nous allons passer à la rubrique culturelle. Pas trop critique. C'est plutôt des livres que j'ai aimés et que je vous conseille, en fait. Donc, Poulet aux prunes, c'est pas un livre militant, mais il a été écrit par Marjane Sastrapi. Et en fait, c'est l'histoire de son oncle dont la femme lui a cassé son tard et depuis il n'a plus le goût de vivre. Donc c'est un bon cadeau de Noël à faire en l'approche des périodes de fête. Et ça se passe toujours en Iran. Voilà, ça c'est un petit conseil. Après, là c'est vraiment le livre, L'art d'ignorer les pauvres. Donc c'est un tout petit livre où il y a 3 articles tirés du Monde diplomatique. Donc, L'art d'ignorer les pauvres, c'est un article de John Kenneth Galbraith, un grand économiste. Après, dedans, il y a l'article « Économiste en guerre contre les chômeurs » de Laurent Cordonnier et « Du bon usage du cannibalisme » de Jonathan Swift, qui a écrit aussi « Les voyages de Gulliver ». Vite fait. Je voudrais livrer ici quelques réflexions sur l'un des plus anciens exercices humains, le processus par lequel, au fil des années et même au cours des siècles, nous avons entrepris de nous épargner toute mauvaise conscience au sujet des pauvres. Pauvres et riches ont toujours vécu côte à côte, toujours inconfortablement, parfois de manière périlleuse. Donc justement, ce petit livre parle du workfare, du welfare, de la politique de l'OCDE, de comment on fait avec le RSA, le RMI, comment on fait avec le chômage, comment on fait pour écarter les chômeurs et se dire ils ne veulent pas travailler, c'est de leur faute et qu'ils nous font perdre de l'argent. Donc c'est un livre, une satire, on va dire que ça peut être une satire. Je n'ai pas le temps d'en parler plus, le temps court après nous. Un livre d'Amnesty pour les 50 ans, 50 ans Amnesty International. Donc, il y a plein de photos, il parle de l'histoire d'Amnesty.
Oui, c'est toute l'histoire du mouvement. Je suis en train de finir de le lire, c'est un livre très intéressant. Toute l'histoire du mouvement depuis ses origines et ses évolutions et son évolution actuelle. C'est aussi un livre qu'on peut s'offrir pour les fêtes qui est tout à fait intéressant.
Un livre qui est assez récent, mais c'est bien de le rappeler. Indignez-vous de Stéphane Hessel.
On a entendu Stéphane Hessel tout à l'heure. Ça tombe voilà. Bien. Ça tombe bien. Quel sens de la propos ?
Ah, mais oui. Et un film que j'ai vu sur Arte la semaine dernière, This is England, de 2007, qui parle d'un jeune enrôlé dans un groupe de skinhead. Et je ne sais pas le nom du réalisateur, je n'ai pas eu le temps de le prendre. Voilà.
Merci Mina.
De rien.
Rapidement, une petite action urgente voilà, on va terminer du par collectif une... RESF. Voilà. Donc, il y a bientôt 2 mois, il y a une femme de famille congolaise est arrivée à Évreux avec ses 4 enfants de 4 à 14 ans. Elle a été prise en charge par le CEFED pendant plus d'un mois. Après, elle a été transférée au collectif ROSF 27. Il travaille sur le dossier. Cette femme a quitté le Congo il y a 11 ans. Elle a vécu en France puis en Espagne. Et elle s'est réfugiée à nouveau en France depuis octobre suite à une histoire personnelle très douloureuse. Elle est sans soutien. Sa demande d'asile n'a pas été reçue, elle est sans droit. Le 115 ne la loge pas, estime qu'elle n'est pas à la rue puisqu'elle dit dormir dans une cage d'escalier. Une démarche est prête, est en cours par rapport à la préfecture pour une demande de séjour. Et cette femme et ses quatre enfants doivent avoir un hébergement, au moins temporaire, à Évreux. Et les enfants, ça serait bien qu'ils soient scolarisés également. Voilà, il leur faut un hébergement d'urgence. Si vous avez des idées, si vous voulez envoyer des messages, vous pouvez les envoyer à l'adresse collectif WYM, tout attaché, hein, c'est Wei Ying Min. Donc collectif wym@googlegroups, au pluriel, .com. Collectif wym@googlegroups.com. Voilà.
Merci. Et pendant qu'on est dans les adresses internet, on va rappeler les nôtres, effectivement, pour terminer l'émission. Et donc, je vous rappelle, du 5 au 17 décembre, www.marathondessignatures.com. Amnesty France, www.amnesty.fr. Notre adresse mail, amnesty.evreux@gmail.com. Et notre site local qui est hébergé sur le site de Euraso, dont je ne vous donnerai pas en entier, il suffit de taper www.euraso.fr. Sur la page d'accueil, vous tapez Amnesty et vous tombez directement sur nos pages. Voilà, merci, bonsoir à tous.
Je peux dire un truc, juste la définition de warfare, histoire de donner envie de lire le livre.
Vas-y.
Aide publique fournie sous la condition d'une part que le bénéficiaire ait un comportement actif de recherche d'emploi ou à défaut suivre une formation et d'autre part qu'il ne refuse pas les propositions d'embauche qui lui sont faites.
Eh bien, rendez-vous le dernier mardi du mois de décembre pour notre prochaine émission. J'ai pas la date sous les yeux, mais ce sera votre travail pour la prochaine fois de regarder sur le calendrier. Donc, à très bientôt, bonsoir et n'hésitez pas à venir nous trouver sur l'email et partout ailleurs.
Voilà, bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.